Gérer agilement avec Annie Boilard.
7h37, bonjour Annie Boilard.
Bonjour Charles.
J'ai failli dire bonjour mon petit cœur.
Ben, bonne Saint-Valentin.
Bonne Saint-Valentin, ben oui, bien sûr. Puis à vous qui nous écoutez aussi, on parle ce matin de relations amoureuses au travail. Faut-il déclarer tout ça au RH?
Oui,
C'est
la grande question qu'on se pose.
Oui.
Hey, d'abord, quelques statistiques, Charles.
Oui.
Un Canadien sur trois qui vivrait présentement ou aurait déjà vécu dans sa vie une relation amoureuse au travail. Est-ce que ça te paraît beaucoup, un sur trois?
Ben, non. T'es-tu déjà arrivé, toi, de vivre une petite relation amoureuse au travail?
J'en ai eu plusieurs autour de moi. Jamais je ne l'ai vécu personnellement.
Okay. Moi, j'en ai eu plus autour de moi, mais j'en ai vécu.
Ah, OK.
Oui, oui.
Tu vois, t'es pas mal bon.
À une certaine époque, ça fait longtemps, là, n'écrivais pas à ma blonde, ni à... C'était avant de connaître ma douce, évidemment.
On t'imagine dans ta carrière de comédien?
Ben oui, en début de carrière, dans une tournée, entre autres. Je fus un couple pendant quelques semaines.
Bon. Alors, effectivement, pour plusieurs personnes, on a l'impression qu'une personne sur trois qui a déjà vécu l'amour au travail, ça nous paraît beaucoup. On peut trouver certains conforts à savoir que c'est la même statistique en Europe,
okay.
Mais aussi, peut-être qu'avec le télétravail, parfois maintenant, on voit moins ce qui se passe dans la vie des perso de nos collègues. On voit plus les lunchs le midi, on n'est pas capable de faire des liens.
Oui.
Donc, il y a des choses qui doivent nous échapper.
Il doit y avoir des coups de foudre sur Zoom. Ça doit exister. En fouillant, il y a peut-être des gens qui auraient des histoires drôles à nous raconter là-dessus.
Oui, puis sans compter que 27% des gens qui tombent en amour au travail, leur première réaction, c'est de le cacher de tout le monde, incluant des collègues.
Fait que
parfois,
oui.
Ils réussissent possiblement.
Normal. Ouais.
Alors, là, tu me demandais tantôt, Charles, est-ce qu'on doit le déclarer?
Oui.
Alors, je t'explique ça. Je nous fais 4 cas d'espèce. Premier scénario, 2 personnes qui tombent en amour, mais qui travaillent dans une même entreprise, mais dans des équipes différentes. On peut penser à des grandes entreprises, des banques, Hydro-Québec et compagnie. La réponse, c'est non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'obligation de divulgation. Ils reçoivent leur chèque de paye de la même organisation, mais ils ne se voient pas nécessairement au quotidien. Aucun problème. Deuxième cas d'espèce, j'ai 2 collègues de même niveau hiérarchique qui tombent en amour, mais ils sont dans la même équipe. Ça veut donc dire qu'ils ont le même patron et les mêmes collègues de travail. Ont-ils l'obligation de le dire? La réponse, c'est non, c'est pas une obligation. Mais on va leur recommander. Parce que là, tu me vois venir, Charles, ce qui va se passer, c'est que l'équipe va finir par s'en rendre compte. Paul et Pauline font toujours les mêmes activités la fin de semaine. Tantôt, je disais la blague, ils mangent toujours les mêmes lunchs. Les gens finissent par réaliser ce qui se passe.
Ouais.
Puis, c'est parce que ça vient envenimer le climat de travail. Donc, aussi bien une divulgation volontaire.
Oui, Pauline vient travailler avec le gilet de Paul le matin. Tu fais 20 minutes, là. Il y a quelque chose qui se passe.
Toujours covoiture, toujours, c'est ça. On finit par connecter les
points. Un moment donné, tu sais.
Oui. Hey, mon 3e cas d'espèce sur 4, je suis l'employé et je tombe en amour avec mon patron.
Oh, plein.
Je suis dans le pétrin. La réponse, c'est non. Non, moi, je ne suis pas dans le pétrin. Mais mon 4e cas d'espèce, c'est mon patron tombe en amour avec moi, son employé. Et là, oui, Charles, c'est là qu'arrivent les soucis parce qu'il y a le gros conflit d'intérêts qui devient manifeste.
Ben
et
oui.
C'est pour ça qu'il va y avoir une obligation de divulgation et l'entreprise va vouloir prendre des moyens pour réitérer la situation. Donc, le gros conflit d'intérêts, là, je le caricature pour le mettre bien, bien évident aux yeux de tout le monde. Mais imaginons un couple ensemble, dont il y a patron puis employé simultanément. Là.
Ouais.
Hey, chérie, on s'achète-tu une piscine pour cet été? Oh, oui, c'est une bonne idée. OK, attends un petit peu, je vais te verser un bonus. C'est gros, hein, mais.
Ah, ouais, c'est ça.
Donc, le conflit d'intérêts pour tout ce qui a trait à la rémunération fixe ou variable, les augmentations salariales, les évaluations de performance, les promotions, la gestion au quotidien, l'évaluation de la prestation de travail. Là, c'est là qu'il y a le conflit d'intérêts. Bon. C'est pour ça qu'il faut faire quelque chose.
Les politiques des entreprises, c'est quoi habituellement? Qu'est-ce qu'on fait? On dit, ben, puisqu'il y a là un conflit d'intérêts possible, on doit renvoyer un des deux. C'est quoi qu'on fait?
Ouais, ça c'est la grande question. Est-ce qu'on peut se faire renvoyer parce qu'on est tombé en amour au bureau? Cupidon est passé. La réponse est non, mais je vais y mettre un petit peu de subtilité, Charles. Est-ce que je peux avoir des représailles au travail parce que j'ai une relation amoureuse avec quelqu'un au bureau? Non. Mais la subtilité, c'est si la relation amoureuse a un effet néfaste sur le travail, l'effet de la relation, lui, peut être assujetti à des mesures de représailles.
Okay.
Je suis un petit peu technique, là, mais en gros, tout le monde a le droit à sa vie privée. L'employeur ne peut pas décider qui va aimer qui puis empêcher quelqu'un d'aimer quelqu'un. C'est pas ça.
C'est pas de même que ça marche.
Mais si, parce que je suis en relation avec quelqu'un, ça a des incidences négatives, comme la personne ne peut plus faire son travail ou bien faire son travail, ou ça discrédite sa fonction. Exemple, Charles, moi, je suis en ressources humaines. Si je commence à fourniquer avec la personne au syndicat, le représentant syndical, là, je viens discréditer nos fonctions.
Ouais.
Donc, là, il va y avoir un souci. Par exemple, si la relation amoureuse vient envenimer, voire pourrir le climat de travail d'une équipe, l'effet de la relation amoureuse, lui, peut être assujetti à des mesures disciplinaires.
Mais ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y ait un coup de foudre entre les gens des ressources humaines puis du syndicat, puis qui, pendant une négociation, ils deviennent un couple, mais il faut agir à ce moment-là, j'imagine.
Ça peut arriver, mais c'est arrivé. Il y a des cas célèbres, oui, parce qu'on finit par passer beaucoup de temps ensemble. Puis, ultimement, il y a souvent des atomes crochus. On veut tous le bien-être des employés, mais on voit des chemins différents pour y parvenir. Mm-hmm. Toujours est-il qu'il y a des histoires célèbres de ça, Charles. Oui, absolument. Ouais. Hey, tu me parlais des politiques d'entreprise. Ouais. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? D'abord, je trouve ça sympathique parce que lorsqu'on demande aux Québécois si leur entreprise a une politique pour les relations amoureuses au travail, c'est près de 70 % des gens qui nous disent oui. Mais dans les faits, c'est moins de 35 % des entreprises qui ont une telle politique. Donc, okay. On voit qu'on a tendance à surestimer ici, là.
OK.
Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Je rassure tout de suite les gens. On ne dit pas qu'on ne peut pas tomber en amour, mais on va venir dire, si une relation amoureuse qui se développe, obligation de divulgation dans certains contextes. Ensuite, on va venir clarifier qu'est-ce qu'on va faire si ça se produit, notamment lorsque le fameux lien de subordination, comme nous parlions tantôt, employé, patron qui tombe en amour ensemble. Et là, la ligne directrice, c'est on va venir briser la relation de subordination.
Ouais.
On va tenter de déplacer un des deux tourtereaux pour faire qu'ils peuvent rester en amour, mais ils ne seront plus boss et employés ensemble.
Ouais.
Donc, par exemple, je peux prendre l'employé sur le chiffre de jour, puis je vais l'envoyer sur le chiffre de soir avec un autre patron. Et là, ils peuvent perdre la relation amoureuse peut perdurer.
Intéressant.
Donc, ouais, on va tenter de défaire les tourtereaux. L'autre chose qu'on va venir nommer dans cette politique, c'est assez évident, des fois je trouve ça drôle de le nommer, mais on va réitérer qu'on s'attend à ce que tout le monde ait des comportements professionnels, amoureux ou non amoureux. Puis ça pourrait aussi être des relations d'amitié. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de minouchage au bureau, il n'y a pas de bisous. On se prend pas par la main dans les corridors. C'est bien évident, mais on se comporte comme avec n'importe quel autre collègue. Puis l'autre élément qu'on va venir préciser dans cette chaire politique, c'est un des éléments qui, pour nous, en ressources humaines, est très important, c'est tout ce qui a trait à la prévention du harcèlement. Nous, dans les relations amoureuses au travail, on a trois obsessions, les gens de ressources humaines. Le conflit d'intérêts, le climat de travail dans l'équipe et la prévention du harcèlement. Puis je te nomme ça parce que, bon, aujourd'hui, c'est le 14 février, Charles, tout le monde fait « Oh, c'est sympathique! » Mais toi et moi et certains auditeurs savons qu'il y aura un 15 et un 16 février. Parfois, ces relations amoureuses, elles finissent par avoir une fin. Et là, comme pour la période de pré-séduction avant la relation, après la relation, s'il y a une des parties qui initie une deuxième tentative de séduction, de reséduction, c'est parce que si ces séductions ne sont pas réciproques, ça ressemble drôlement à du harcèlement.
Ben oui.
Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est tellement important de réitérer c'est quoi du harcèlement, quels sont les droits des différentes parties, quoi faire si on se sent victime de harcèlement. Puis en gros, c'est comme si Cupidon, quand il passe au bureau, il y a un petit peu moins de chance que quand il passe dans un bar ou quand il passe sur des réseaux sociaux ou des plateformes de rencontres. C'est qu'il faut que son timing soit parfait.
Ouais.
Il faut que la réciprocité soit immédiate. Parce que s'il y a une des parties qui n'est pas convaincue tout de suite, bien, la partie qui a déclaré son intérêt, elle ne pourra pas revenir à la charge. Il va falloir que ça revienne de la deuxième partie, celle qui a mis les choses un petit peu sur pause.
Compliqué, hein?
C'est ça, c'est la synchronicité de Cupidon.
Comme une rupture. Une rupture au travail, évidemment, quand on est amoureux, on pense pas à rupture, mais ça peut arriver au travail. Je l'ai déjà vécu, pas moi personnellement, mais avec des collègues, il y avait un couple. Quand il y a eu rupture, on travaillait tout le monde ensemble. On faisait de la tournée tout le monde ensemble. Puis même, ça m'est arrivé en télé aussi, dans notre entourage. Puis ils ne se parlent plus. Puis si on devient l'oreille d'un puis l'oreille de l'autre, c'est comme si on prenait parti. C'est compliqué, là.
C'est très compliqué.
Il y a une prise d'otage là, qui est faite avec les gens avec qui on travaille.
Oui, ça vient envenimer tout notre travail et c'est très, très néfaste, c'est dangereux. Tout comme même, là, c'est le scénario de séparation, mais des fois, même pendant la relation amoureuse, quand ça va bien, ça crée aussi des parties parce que ça fait des clans dans l'équipe.
Ouais.
Moi, je te dirais, sans avoir de science pour soutenir ce que je vais dire, ce que j'observe sur le terrain, c'est que les relations amoureuses qui perdurent vont finir par venir séparer au travail. C'est-à-dire qu'il y a un des deux tourtereaux qui va trouver un travail dans une autre entreprise, puis la relation va perdurer ainsi. C'est rare qu'on voit de très longues relations amoureuses et professionnelles perdurer simultanément à cause de l'équipe, à cause de l'incidence que ça a sur l'équipe.
Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, ben, bonne Saint-Valentin, Annie Boilard.
Ben merci, toi aussi, cher Charles.
Tout à fait, spécialiste en ressources humaines, bien sûr, réseau-annie.ca pour en savoir davantage.